Alors, comme je disais, dans la continuité de notre sujet, ces derniers dimanches, le message était autour de Jésus suffit. Nous pouvons parler de beaucoup de choses qui viennent du Seigneur. On peut parler de la paix, on peut parler de l'amour, on peut parler de ce que. Mais toutes ces choses-là sont centrées sur celui qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, notre vie, notre message, notre conduite doit être centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus qui est l'Église. Nous avons dit que l'Église, c'est un rassemblement de chrétiens d'ici et d'ailleurs, et dans le monde entier. Et cet ensemble forme ce qu'on appelle le corps de Christ. Donc l'Église est Christ. Donc le fait de dire l'Église de Christ, c'est une erreur de langage. Puisque l'Église, c'est Christ. La Bible nous dit que le Seigneur, quand il était sur terre, il avait les disciples avec lui. Mais il leur a dit, il vaut mieux pour vous que je monte au ciel, parce qu'en montant au ciel, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, en quelque sorte Christ, Esprit, qui sera toujours avec nous. L'apôtre Paul, quand il était sur la route de Damas, vous vous rappelez de cette histoire, qui ne s'appelait pas encore l'apôtre Paul, il s'appelait Saul. Et c'était un juif érudit qui travaillait pour la synagogue et pour les pharisiens et qui allait persécuter tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et il croyait être dans la vérité. Il croyait, était sûr de lui. Il croyait servir Dieu. Mais quand Dieu s'est révélé à lui sur la route de Damas, il y a une lumière qui est descendue sur lui, il est devenu aveugle. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, le Seigneur? Il ne lui a pas dit, pourquoi tu persécutes les chrétiens? Il ne lui a pas dit, pourquoi tu persécutes l'Église? Il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce que l'Église, c'est Christ. Quand l'Église est persécutée, c'est Christ qui est persécuté. Quand l'Église est malade, c'est Christ qui est malade. Quand l'Église ne va pas bien, c'est en quelque sorte, on porte atteinte à Christ lui-même. Et si nous sommes réunis ici, c'est Christ qui est là. Et pas seulement nous, mais tous les chrétiens du monde. C'est ça le corps de Christ. Et c'est pour ça le message d'aujourd'hui, quelque part paradoxal, au point de choquer quelques-uns, c'est que le message d'aujourd'hui, c'est fuir la chrétienté. Se libérer de la chrétienté. Se débarrasser de la chrétienté. Ou appeler ça autrement. Au lieu de la chrétienté, vous voulez un mot plus feutré qui passe partout. Alors, se débarrasser de la religion organisée. Oui, le dire autrement. Et pour ce message que nous allons partager ensemble, un passage de la Bible dans 1 Jean, chapitre 5, versets 11-12. 1 Jean 5, 11-12. Je lis. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et c'est clair. On peut tourner autour du pot, mais c'est clair. Si nous n'avons pas le Fils, nous n'avons pas la vie. Nous pouvons avoir toutes les règles religieuses. Les meilleurs. Je peux les appliquer 24 heures sur 24. Je peux prier tous les jours, tous les instants. Je vais à l'église tous les dimanches, je vous réunis le mercredi. Je donne l'aumône, tout ce que vous voulez. Ce sont des choses. Mais je peux les faire sans avoir Christ. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. C'est une question, je dirais, de vie ou de mort spirituelle. Si on se contente d'une simple relation, on n'a pas la vie. On passe à côté. Si nous avons une communion, là, le Seigneur, on peut s'appeler chrétien. C'est pour ça la définition même de l'Église. On peut poser la question avec un micro, on va dehors, on dit, allez, dites-moi, c'est quoi l'Église pour vous? Alors là, on va avoir toutes les définitions. Et on peut dire l'Église, ben, c'est un bâtiment. L'Église, c'est, je ne sais pas, c'est un pasteur, un curé. L'Église, je ne sais pas, moi, c'est une organisation, une association. Mais ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est Christ. Christ, c'est la vie. Et Christ est éternel. Si nous avons Christ, nous avons la vie. Si on n'a pas Christ, il n'y a pas d'Église. Il y a une fausse Église. Il est très important de faire cette distinction claire entre l'Église et ce que la Bible appelle, enfin, du grec, l'ecclésia. Il faut faire une différence entre l'Église en tant que Christ, le corps de Christ, et l'Église institutionnelle, reconnue par les pouvoirs publics, déclarée à la préfecture, voire reconnue au niveau mondial comme l'Église catholique, le Vatican, ou même protestant, etc. Il ne faut pas se focaliser seulement sur un seul courant. Et ce que nous appelons l'Église organisée. Elle a une existence juridique, l'Église. Mais ce n'est pas l'Église telle que Dieu la voit. L'Église, c'est Christ lui-même. Contrairement à la croyance populaire, le Seigneur Jésus-Christ ne vit pas dans la religion organisée. Et je tiens à le répéter. Le Seigneur n'habite pas dans la religion organisée. L'Ecclésia, comme notre Seigneur, est complètement autre chose. Pouvons-nous le joindre à une église? Oui. Si nous répondons à certaines exigences pour l'adhésion. Vous regardez les sites internet des différentes églises, vous voulez les critères pour adhérer, et si on adhère à l'église, mais on adhère à une organisation, à un bâtiment. Ce n'est pas l'église d'après la Bible. Mais est-ce qu'on peut adhérer à l'ecclésia telle que Dieu la voit, comme on adhère à une organisation? Non! Pour adhérer à l'église en tant que corps, en tant que Christ, il y a une exigence. Naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau au-dedans de nous-mêmes et nous faisons partie de l'Église, nous faisons partie, je dirais, de Christ. Même si je ne fais pas partie de l'Église bâtiment. Ce n'est pas une question de se joindre ou de ne pas se joindre à une organisation. C'est une question, est-ce qu'on a la vie ou est-ce qu'on n'a pas la vie? C'est très important. Ce n'est pas parce que j'adhère à une organisation, je respecte les contraintes et les obligations que je suis dans l'Église. Malheureusement, on peut adhérer à une Église sans être dans l'Église en Christ. 1 Jean 5, 12 nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est très important de le répéter. Certains croient incorrectement que Jésus a fondé un mouvement. Je rappelez-vous, la dernière fois, même les historiens, je l'ai lu, disent que la naissance du syndicalisme, c'est Jésus. Le plus grand des syndicalistes, c'est Jésus parce qu'il défendait les opprimés. Vous vous rendez compte? On est allé jusque-là. On dit que Jésus a fondé un mouvement, a fondé une nouvelle religion. Ben oui, non. Il y a assez de mouvements, il y avait assez de mouvements dans le monde, il y a assez de religions dans le monde pour que Jésus en crée une autre. Jésus ne se met pas au niveau des religions parce que ça n'a rien à voir, parce que Jésus, c'est la vie. Ma religion d'enfance, ma religion, je dirais, culturelle, mes origines. Je dirais chapeauté par celui que nous appelons Mahomet à l'occidental, mais le nom c'est Mohamed. Il apporte une certaine morale. Même on peut dire elles sont bonnes, certaines morales, mais il ne donne pas la vie. On peut parler de Bouddha, on peut parler des philosophes, on peut parler de Socrate, on peut parler de ce que vous voulez, on peut parler de la science, mais ça ne donne pas la vie. On peut parler de la théologie, on peut parler des études bibliques, on peut parler des universités théologiques, mais ça ne donne pas la vie, parce que la vie se trouve tout le monde en celui qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que je suis en train de dire de tout rejeter, mais pas du tout. Mais il faut être clair, ces philosophies, ces religions, cette science apportent un enrichissement culturel, une morale, si on appelait ça, mais ça ne donne pas la vie. La vie est contenue en celui qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus est différent. J'ai dit, il nous apporte la vie. Et même là, j'ai commis une erreur en disant, il nous apporte la vie. Pourquoi j'ai commis une erreur? Parce qu'il est la vie. Oui? Déjà, il nous apporte la vie, il est la vie. Jésus est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans une communion totale avec lui, nous avons la vie. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie. Et cette vie nous transforme jour après jour. Ce n'est pas qu'il nous communique simplement quelques enseignements. Ce n'est pas ce qu'il nous donne qu'il nous apprend quelques vertus avant de monter au ciel. Pas du tout. Il est bien au-delà d'un simple prophète, d'un simple exemple, d'un simple maître, d'un simple rabbi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour devenir notre vie. Et tout être humain, s'il n'atteint pas cette vie, il est à côté de la plaque et l'a raté, la cible, raté la cible, le péché. Tout être humain, du moment que nous sommes nés, nous ne sommes pas uniquement comme des animaux, buvant, mangeant, profitant de la vie, hop, un jour on va disparaître et ça recommence. Mais c'est malheureux de croire cela. Mais notre sens dans la vie, c'est que nous sommes destinés à rencontrer notre Créateur. C'est pour ça que nous sommes créés, nous sommes nés. C'est que Dieu nous offre cette grâce de nous dire, votre réalité, elle est cachée en Christ, et votre réalité doit être atteinte quand Christ habite en vous, c'est-à-dire la vie en vous. C'est-à-dire que l'éternité commence ici-bas, mais ne pas attendre après, quand on sera mort. La Bible nous dit que l'éternité commence dès la nouvelle naissance. Dès que nous avons la vie, cette métamorphose commence et cette vie commence qui a un objectif, c'est de rejoindre son Créateur pour l'éternité. Rater cela, c'est tout rater. Est-ce que les religions nous donnent cette vie? Mais pas du tout. Est-ce que la science nous donne cette liberté, cette vie? Pas du tout. C'est pour ça que nous avons besoin d'accueillir ce Christ en nous. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. C'est que nous rentrons dans une métamorphose éternelle, c'est que nous rencontrons notre réalité. Et cette vie fait en sorte qu'elle nous prépare pour la vie éternelle plus tard. Quoique la vie éternelle commence ici-bas, dès notre nouvelle naissance. En lui, en Jésus-Christ, il y a la vie. Ne limitons pas le Seigneur Jésus-Christ comme font les historiens, et je sais de quoi je parle, à seulement à ce Jésus historique qui est venu il y a plus de 2000 ans. Quand on parle de Jésus, on parle de l'histoire, on dit ce Jésus, c'est celui qui est né, oui, d'accord, même l'islam le reconnaît, qui est né d'une femme vierge, etc., par le Saint-Esprit, il est né, il a vécu à peu près une trentaine d'années, et qu'on appelait le Fils de Dieu, qui nous a donné des règles, etc., et après, il est monté, on ne le voit plus. On ramène Jésus à ce laps de temps, alors que la Bible nous dit, Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Jésus, il est éternel aussi, Dieu est éternel. Ne ramenons pas la réalité de Jésus seulement à cette période historique que Dieu a voulu dans son amour pour venir jusqu'à nous. C'est ça l'amour de Dieu, c'est qu'il s'est humilié jusqu'à prendre notre propre nature au milieu de nous. Mais Jésus existait déjà avant la fondation du monde. Tout vient de lui, par lui et pour lui. Et je vous invite à lire les lettres aux Colossiens, Éphésiens, et vous allez découvrir une réalité qui nous dépasse. Ne réduisons pas le Seigneur Jésus-Christ à nos concepts historiques, à nos méthodes, à nos règles, à nos habitudes, à une religion organisée. Parce que le Seigneur est plus que ça. En lui, il y a la vie. Il est la vie. Tous ceux qui sont en lui possèdent la vie. Donc la vie n'est quand nous sommes en communion avec lui. En dehors de lui, il y a un semblant de vie, mais ce n'est pas la vie. La vie est dans le Fils, et le Fils est en nous, en tant que chrétiens, quand nous sommes nés de nouveau. et ne succombons pas au mensonge de l'ennemi de nos âmes, au diable, qui fera tout pour nous faire vaciller de notre position en Christ. Regardez ce que comme vous êtes là, vous avez ce que vous avez fait aujourd'hui. Ah, vous n'êtes pas allé au culte dimanche. Ah, non, regardez. Oui, si vous étiez en Christ, vous ne péchez pas. Ça, c'est des mensonges. Tant qu'on est dans ce corps, on est susceptible de pécher. Mais ça n'empêche que nous sommes, notre position est en Christ et lui est parfait en nous. Il nous transforme petit à petit jusqu'à la dernière liberté, quand nous aurons quitté ce corps. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je ne fais que lire 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. L'ensemble de ceux qui possèdent la vie, l'ensemble de ceux qui ont la vie, l'ensemble de ceux qui sont en communion avec le Seigneur, l'ensemble, ça s'appelle l'Église. Réduisons-nous l'Église à un bâtiment, à une réunion, à des habitudes? Ça peut être la conséquence, ça, il ne faut pas le rejeter. Oui, parce que nous sommes unis en Christ, qu'avec joie nous nous réunissons le dimanche. Mais il ne faut pas inverser. Il ne faut pas dire, parce que nous nous réunissons le dimanche, nous sommes... ça c'est l'inverse, ça c'est l'évangile à l'envers. Nous sommes unis en Christ, parce que nous sommes en Christ, il nous permet, dans sa grâce, de nous réunir le dimanche matin, le mercredi. Et même quand on ne se voit pas, nous sommes en communion spirituelle. C'est ça. L'Église. Les différents membres de l'Église, parce que c'est spirituellement qu'on en parle, s'appellent les chrétiens. Et ces chrétiens demeurent en Christ et Christ demeure en eux. Donc là, nous sommes en Christ ensemble, au-delà de ce que nous pensons, par nos capacités sensorielles. On peut se demander. Un chrétien n'est-il pas celui qui croit ceci ou cela, ou se comporte comme ceci ou cela? Nous répondrons qu'ils peuvent très bien croire et se comporter ainsi, mais la croyance et le comportement n'est pas ce qui fait de nous des chrétiens. C'est par grâce que nous sommes devenus chrétiens. On était incapable de rencontrer notre Dieu. Et c'est lui qui est venu à nous. Et c'est par grâce que nous pouvons dire que nous sommes chrétiens. C'est cela la vie. Certainement, les chrétiens ont un système de croyance et de pratique. Mais les caractéristiques d'un chrétien, c'est tout simplement la vie. C'est-à-dire Christ. Le Seigneur est ma vie. Faisons la différence entre le Seigneur dans ma vie et le Seigneur est ma vie. Est-ce que vous voyez la différence? Le Seigneur dans ma vie, insuffisant. Parce que le Seigneur est ma vie. Vous voyez? D'une relation à une communion. La foi chrétienne est une communion. Ma religion d'enfance est une relation. D'ailleurs, qui a donné religare, relation, religion. C'est-à-dire, je suis là, Dieu est là-bas et je dois m'efforcer. Quelque sorte de plaire à Dieu pour mériter peut-être ce qu'on appelle le paradis. Mais ça, c'est une relation. Et nous sommes perdants d'avance. Notre Dieu a dépassé ce stade. Il a dit, quand vous êtes incapable de venir à moi, eh bien moi, je viens à vous. Et c'est formidable. Et tant que nous croyons que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu, on n'avancera pas. C'est quand les efforts de l'homme et de la femme, bien entendu, s'arrêtent que celle de Dieu commence. Nous sommes incapables d'atteindre Dieu. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, c'est moi qui viens vers vous. Et ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas quelque chose de futur. C'est déjà fait. Le Père est déjà venu, Dieu est déjà venu à notre rencontre. Il est venu en son Fils, Jésus-Christ. C'est déjà fait. Il nous dit seulement, acceptez mon invitation. Et c'est ça le plus dur chez l'être humain. C'est quand on lui dit, quand on l'invite à accepter, il dit non, il faut que je fasse quelque chose. Je vous invite à manger chez nous. Qu'est-ce que j'apporte? Rien. Maintenant, il faut que j'apporte quelque chose. Maintenant, je vous dis, on vous invite. Mais par courtoisie, il faut que j'emmène quand même quelque chose. Je ne viens pas les mains vides. On vient de vous dire que nous vous invitons, nous ne voulons rien. Souvent, on est comme ça. Le Seigneur nous dit, Vous pouvez rien faire, je ne veux rien de vous. Seulement, acceptez mon invitation et moi, je viens habiter en vous. Je viens, je souperai avec vous. C'est-à-dire, il emmène même à manger. Seulement, ouvrez la porte. Et c'est ce qui est le plus dur chez l'être humain. Et je sais de quoi je parle. Nous passons d'un christianisme de grâce, un cadeau, à un christianisme intellectuel. Et là, je parle de l'histoire, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quand souvent, on dit, ah, aujourd'hui, c'est... Non, mais ça a toujours été. Hein. Même dans l'Église primitive, cet christianisme intellectuel existait. On appelle ça organiser, le faire. Il faut qu'on organise, il faut qu'on contrôle. Il ne peut pas donner la vie. Le christianisme intellectuel ne peut pas donner la vie. Il peut donner des règles de morale pour vivre en harmonie, mais ça ne donne pas la vie. Ça s'arrête quand on quittera ce corps. Le christianisme intellectuel. On nous dit en tant que chrétien, je vais caricaturer, hein, il faut respecter trois règles. Le salut obtient en trois étapes. Oui, des règles. Vous admettez que vous êtes pécheur, vous considérez que le Seigneur Jésus vous a sauvé, et vous confessez que Jésus en tant que votre sauveur personnel, et vous êtes chrétien. Je n'invente rien. Certainement, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent, ça dépend des dénominations, les courants, etc. Hein. Mais là, j'ai résumé. Et on dit ce ABC-là que je viens de vous dicter, hop, ça fait que nous sommes chrétiens. On peut l'écrire sur les sites, tout ce que vous voulez. Hein. Mais c'est un problème. Les ABC-là ne donnent pas la vie. On est d'accord, ça ne donne pas la vie. Le ABC, les trois règles, ne sauvera pas. Il n'y a aucune rencontre avec Jésus qui seule est la vie. Les trois règles sans la communion avec Jésus, c'est rien. J'ai connu des conversions intellectuelles. J'en ai connu. Il y en a qui sont convertis par affinité, par respect, par amour, par proximité, pour faire plaisir, ou parce qu'on est seul, on adhère. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça disparaît. Et tout le monde est en train de prier, en train de s'inquiéter. Oh là là, elle a abandonné le Seigneur. Non, moi je dis Alléluia. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Il a abandonné certaine conception du Seigneur, parce que maintenant, le Seigneur, quand il va toucher, ce sera la vraie vie. Il y a eu une acceptation, une affirmation intellectuelle de ce qui est présenté. Christ est la vie. Si on ne rencontre pas Christ, on vit dans un mensonge dans ce monde. Mangeons, buvons, profitons, au revoir, et la vie continue. C'est le mensonge. Notre raison d'exister, c'est de rencontrer notre Dieu en Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est le pourquoi. Si je suis né pour rencontrer mon Dieu en Christ. Si je ne rencontre pas dans une communion en Christ, mon existence n'a aucun sens. Et c'est ça le sens même du péché dans l'hébreu. C'est rater la cible, c'est rater sa réalité. La religion organisée, d'après l'histoire, a transformé le christianisme en chrétienté. Un évangile facile à croire, mais progressivement plus difficile à vivre. Je peux lire, je peux l'expliquer, mais ma vie, c'est tout autre. C'est une insulte à notre Créateur. La religion organisée peut apporter la doctrine, l'enseignement, la croyance. Une partie d'elle peut être moralement excellente, bonne, mais elle ne donne pas la vie parce que la vie, c'est Christ. Donc, le christianisme, je le résume, c'est Christ. Tout doit revenir à Christ. Nous sommes appelés à vivre cette communion avec Christ dans la foi. Et en fait, quelque part, il nous invite à l'accueillir tout simplement. C'est ça la vie chrétienne. Elle est simple, mais en même temps, on la complique. Ouvrant notre cœur, le Seigneur dit, je vais y habiter. Ne vous inquiétez plus de rien, je m'en occupe. Mais non, on veut faire. Jusqu'au point, vous ne pouvez même pas me servir. Vous ne pouvez même vous sacrifier, je n'en veux pas. La preuve, vous ne pouvez même pas changer. Au point, je suis mort à votre place. Croyez seulement. Oui, Seigneur. Mais quand même. Oui, c'est le mais. C'est un problème, le mais. Il y a le diable qui est l'ennemi de Dieu. il y a nous-mêmes, notre nature qui est l'ennemi de Dieu. Laissez-moi faire? Non, Seigneur, il faut que je fasse. Oh, attendez, on fait à deux. Oui, on cherche des compromis. Nous sommes morts à nous-mêmes. Nous sommes dans le ciel. Nous sommes assis à droite du Père. La Bible nous dit, je vous invite à lire Colossiens, Éphésiens. Nous sommes déjà dans la victoire. Et si nous réalisons cette réalité-là, tout simplement, la vie va faire son œuvre et nous marcherons. Cette réalité est active. Elle ne rend pas statique. Tout naturellement, la vie en découle. L'Église, l'Ecclésia du Seigneur, est la synthèse des individus qui ont la révélation de Jésus. Oui, on revient à la même chose. Et qui sont venus à lui pour le recevoir, pas en tant que maître, prophète, je ne sais pas quoi, pour le recevoir en tant que vie, vie majuscule. Nous avons le Seigneur Jésus en nous, mais bien sûr, nous ne l'avons pas en tant qu'être historique, parce qu'il n'est plus l'être historique. L'être historique, crucifié, mort, ressuscité. Mais à la place, nous avons le Jésus-Esprit. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, il a dit, il vaut mieux pour vous que je monte. Parce que là, vous allez avoir l'Esprit-Saint. Donc, nous avons Christ en nous, dans l'Esprit. Donc, nous avons l'Esprit-Saint en nous, nous avons Christ, nous avons la vie. Nous employons avec facilité et aisance le terme « Église » et moi le premier. On parle de bâtiments consacrés aux réunions religieuses nous appelons église. Nous assistons à une réunion religieuse qu'on appelle aller à l'église. Entendre un bon message ou une bonne musique au cours de réunions religieuses, on dit voilà, nous sommes dans l'église. Devenir membre de l'organisation à but non lucratif qui possède le bâtiment consacré aux réunions religieuses et nous appelons ça joindre, se joindre à l'église. Ces choses-là sont la conséquence, il ne faut pas les négliger. Dieu le permet. Parce qu'on est dans un pays où il y a des règles. Mais il ne faut pas réduire l'Église à ça. Parce que nous sommes en Christ, que Dieu permet dans sa volonté que nous nous réunissons dans une organisation à but non lucratif, etc. etc. L'Église n'est pas terrestre. L'Église, d'après la parole de Dieu, d'après la Bible, que nous lisons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Église, elle n'est pas terrestre. C'est-à-dire, elle n'est pas de ce monde, l'Église. L'Église, selon la vision du Seigneur, elle est spirituelle, l'Église. L'Église est spirituelle. L'Église est invisible à l'œil. Ne confondons pas les effets de l'Église dans notre vie de tous les jours avec l'Église en Christ. L'Église ne peut pas être mesurée par des statistiques. L'Église est la synthèse de tous les individus qui ont la révélation de Jésus et sont venus à lui pour le recevoir en tant que leur vie. Où trouver cela? Comment saisir cette réalité-là? Essayer d'expliquer cette réalité, c'est comme essayer de trouver le vent au 20-22 rue Albert Ier. C'est l'adresse de notre église, bâtiment. L'église est au-delà de la description géographique. Elle est partout et nulle part. L'église. Un chrétien est celui qui est en Christ. Pas seulement avec Christ, en Christ, dans la communion. Je n'ai pas dit avec Christ. Un chrétien, il est en Christ, dans l'union avec lui. Un chrétien, ce n'est pas celui qui lit plusieurs chapitres de la Bible. Ça, c'est les conséquences. Mais l'origine, c'est notre communion avec le Seigneur. Ce n'est pas la quantité de temps qu'on met dans la prière. Ça, c'est la conséquence. Mais c'est notre position en Christ qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas le nombre de fois que je viens à l'église. Non, ça, c'est la conséquence de notre communion avec le Seigneur. N'expliquons pas l'Église parce qu'elle est externe, mais l'Église, elle est interne, elle est spirituelle. Comme le vent. On peut voir ses effets, mais on ne peut pas dire d'où il vient, où il va. Lisons ensemble Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 6 et 7. Jean 3, voilà, Jean 3, 6 et 7. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas quand je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et voilà ce qui est dit après. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voyez? Notre position, notre, je dirais, façon de voir les choses est souvent terrestre, ancrée dans une religion organisée et sans se rendre compte sur des concepts inventés par l'homme. Mais la réalité de l'Église, elle est spirituelle, elle se reçoit par révélation. Et dès notre le jour de notre naissance, nouvelle naissance, nous sommes en Christ. Nous sommes dans l'Église. Nous sommes l'Église. L'Église, l'Ecclésia est invisible, comme je l'ai dit. Elle est spirituelle. Elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Elle est la lumière dans l'obscurité. L'Église spirituelle, certes voilée, dure à décrire par nos mots, et pourtant elle rayonne la vie là où elle est. Et c'est ça le témoignage de l'Église. Si nous éprouvons des difficultés pour dire où est l'Église, soyez assez matures pour dire au moins où elle ne l'est pas. Et là, par notre attachement au Seigneur, par notre communion avec lui, nous pouvons regarder ce qui se passe dans la religion organisée, les religions organisées pour dire, ça, ce n'est pas l'Église. Et c'est de notre responsabilité. Le Seigneur est l'Église. Il est vivant, il est au milieu de nous. Il est là parmi nous. Il est l'alpha et l'oméga. Nous ne trompons pas de position. Nous sommes déjà assis à la droite du Père. L'Église, c'est Christ lui-même. Et Jésus construit son Église. Et le Père en train de préparer son Église, la Bible appelle l'épouse pour aller à la rencontre de son époux. Et je ne crois pas que le Père accepterait que cette Église soit composée de chrétiens qui ne vivent pas ce témoignage-là. La Bible nous dit qu'il prépare son Église, qu'elle soit pure, blanche, qui va à la rencontre de son époux. Jésus construit son Église. Que Dieu nous accorde l'humilité, la simplicité, dans une attitude, je dirais, de remise en question, de repentance, pour lui dire peut-être que je réduis l'Église à ma conception humaine. Et qu'il nous permette de le recevoir et de l'accueillir en tant que vie. Parce que sans Christ, nous n'avons pas la vie. Car nous sommes en Christ, nous sommes en communion avec lui, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Je lis avec vous Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 7. Éphésiens 2, 5 à 7. Voilà, je lis. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà notre position. Elle est déjà acquise à un grand prix. Que Dieu nous accorde cette vision de l'Église, de son Église, pour que nous puissions apprécier cette bénédiction, cette réalité, et qu'elle nous transforme jour après jour en tant que corps, en tant qu'Église, et parce que nous sommes dans ce corps, à titre individuel, nous pourrons vivre avec une nouveauté de vie tous les jours. Cette réalité de l'Église peut être une bénédiction et une malédiction en même temps. Pourquoi? C'est une bénédiction parce que ça nous permet de voir les choses comme le Seigneur permet qu'on les voit. Mais c'est une malédiction parce qu'elle nous remet en question, parce qu'elle va carrément ruiner notre façon de voir, parce que nous ne pourrons plus jamais accepter de substitut à l'Église, nous ne pourrons plus accepter de contrefaçon, même celles qui ont l'apparence de bonnes choses, aux dépens de la Sainte Église, qui est Christ lui-même, le Christ, l'Église, le trésor divin. Il ne restera plus qu'à dire, Seigneur, l'Église t'appartient, pas à moi. Seigneur, maintenant je vois mon erreur, j'enlève mes mains de sur elle, parce que ce n'est pas à moi à y commander ou diriger. Je me repens et d'essayer d'établir ce que tu souhaites détruire, et je me repens parce que peut-être je cherche à détruire ce que tu souhaites construire. Seigneur, que ton Église nous soit révélée, que tu nous fasses grandir dans ton Église qui est toi-même. Une fois que nous aurons vu cela, je suis convaincu que nous cesserons de nous battre entre dénominations. Nous cesserons de nous comparer avec les religions organisées. Nous cesserons de faire des débats pour des convictions philosophiques, protestants contre catholiques, évangéliques contre je ne sais qui. Nous mettrons de côté tout ce qui est dénomination parce que nous serons ancrés dans la réalité. Christ est l'Église. Christ doit être le chef de l'Église. Christ doit être la tête de l'Église. Il n'y a pas de corps sans Christ. Que Dieu ait pitié de nous et nous donne une telle révélation de lui-même et de son Église, que nous puissions échapper de la chrétienté et trouver la vie qui n'est rien d'autre que Christ lui-même. Que le Seigneur nous aide.